Monsieur Gainsbourg est invité à la cabine de pilotage.
La CRTLF.
Écono.
Communauté des radios publiques de langue française.
Affirmative. La première de la RTBF.
Ouais. La première de la radio suisse romande.
Ouais. France Inter.
Ouais. Et la première chaîne de Radio-Canada. Ouais. Présente.
Serge Gainsbourg par Mélodie Nelson. Nelson.
Une émission de Jean-Luc Lehmann. Stéphane Deschamps.
Étienne Deschâtel.
Serge Gainsbourg par Mélodie Nelson. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence.
Serge Gainsbourg, quel genre de chanson écrivez-vous? Vous me direz, il y a un cru Gainsbourg et on ne change pas comme ça d'étiquette, n'est-ce pas?
L'intelligence.
Un cru, enfin, il y a des vins qui tournent au vinaigre.
Ouais, mais enfin, j'en connais.
Connerie.
Pardon?
J'en connais.
C'est une méchanceté.
Oui, mais je voulais citer faire ça.
Ah, très bien. Alors, je voulais vous dire que nous étions tout disposés à écouter une chanson du Cru d'hiver, Gainsbourg.
Cru d'hiver, c'est en un seul mot.
C'est en un seul, en deux mots.
En trois, alors.
Pourquoi? Ah oui, avec l'apostrophe. Avec l'apostrophe. Et quelle est la chanson que vous proposez?
Mais ça s'appelle Chanson pour Tézig.
Ah oui, c'est en un seul mot.
Gainsbourg, le faux méchant.
J'aime bien mes zig, mais j'aimais mieux.
Totalement inédit.
Totalement inédit.
1962.
Chanson pour Tézig.
100 fois de Tézig, les jolis yeux.
Méchant, méchant, méchant.
Pardon?
Où es-tu, fillette, jeune tendron? Cours-tu les guinguettes à reculons? J'ai rompu la digue de mes sanglots. Mon âme navigue entre deux eaux. Mais ces quelques larmes l'ont effacée. Aucun de tes charmes, jolie poupée. Si avec ces zigs t'as du bon temps, croisant bien mes zigs dans pas longtemps, j'en sais quelque chose, tu resteras comme un marbre rose entre ses bras. Moi aussi m'intrigue les inconnus. Un jour de fatigue t'en pourra plus. Amour, si t'en pince encore pour moi, va, je suis bon prince et toujours là.
Gainsbourg par Mélodie Nelson.
Le soir de l'après-midi où je l'ai rencontré, il m'a appelé en pleine nuit.
C'est le genre de mec qui me fait monter l'adrénaline.
Musique.
Il devait être 3h du matin et il me dit: viens immédiatement, il y a du fric à faire, tu vas chanter sur une pub que j'ai fait. Et je suis arrivée chez lui et j'étais extrêmement surprise qu'il y avait toute la gendarmerie nationale de la rue de Verneuil chez lui, assis dans ses canapés et fauteuils, parce que chez lui, quand même, il fallait pas faire un faux geste. Ça, il y avait des objets de valeur absolument partout et tout était extrêmement clean et bien placé, etc. Et t'avais 5-6 flics qui étaient là dans le canapé et fauteuil et qui lui racontaient des histoires drôles, enfin des conneries.
Toujours à moitié paf.
Verneuil, il ouvrait plutôt à tout le monde, quoi. Enfin, c'est-à-dire même les fans. Je sais qu'il y avait des fans qui sonnaient à la porte pour avoir un autographe, un truc, un machin. Il ouvrait, quoi. Il ouvrait.
Paris, mai 2001.
Nous sommes maintenant devant le 33
rue de Verneuil.
C'est un restaurant qui s'appelle l'Entrecôte. En tout cas, aujourd'hui, il s'appelle comme ça.
Aujourd'hui, il s'appelle l'Entrecôte et il est ce restaurant contigu de l'ancien appartement d'une autre vedette de la rue.
Jean-François Moulin, enfant de la rue de Verneuil.
C'était Julien Gréco et Piccoli. Et là, donc, on va rentrer alors, dans l'Entrecôte parce que ben, Gainsbourg, il avait ses habitudes.
Ouais, il faut pas.
Oui,
voilà, bonjour, je m'en vais. Deux minutes.
Je me sauve.
Alors, dites-nous, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le patron ?
Oui, absolument.
Depuis combien de temps ?
Depuis 1960.
Donc vous avez bien connu Serge Gainsbourg ?
Absolument. Vous avez ici la salle où Gainsbourg... On peut pas aller rentrer là-bas, il y a le bruit. La salle où Gainsbourg...
Monsieur, on peut. Allons-y même, c'est du bruit, c'est pas grave.
Avec le bruit, ça vous fait
non, aucun problème. Donc là, il y a deux salles dans le restaurant, c'est une petite salle. Oui, voilà.
Il y a quatre salles. Et Gainsbourg déjeunait toujours à cette table-là, où vous veniez prendre un pot au bar.
Alors on va juste lire, parce qu'il y a une plaquette, vous avez maintenant installé une plaquette ici. Alors il était indiqué, ici Serge Gainsbourg prenait son 102 avec Renato Delfino, en parenthèse de Saint-Tropez, et Pierrot Fruit. Serge désignait du doigt le Daniel Lee où il avait séjourné, parce qu'il y a une reproduction de...
C'est lui qui a fait cette peinture sur le mur, qu'on a conservée au fil des années.
Donc Venise, l'hôtel Daniel Lee.
Et donc c'était Renato qui l'avait peint.
Et Pierrot, qui était Pierrot ?
Pierrot, c'était le marchand de légumes qui était avant, ici à côté. Pierrot a vendu il y a 4 ou 5 ans, mais enfin, des figures du quartier.
Il a pris sa retraite, il est parti ?
Oui, il est parti en Bretagne.
Et Pierrot et Gainsbourg étaient vraiment copains ?
Ah oui, c'était vraiment des copains.
Il parlait de quoi avec son copain Pierrot, par exemple ?
Beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Et Pierrot était très briefé dans tout ce qui était musique, chansons, et le Vieux Paris. Tout ce qui était du Vieux Paris, Gainsbourg en était féru, hein.
Il lui racontait quoi ? Vous avez dû surprendre des conversations comme ça à propos de la musique et du Vieux Paris et de la chanson ?
La musique, les femmes, leur vie. Pierrot, c'était un franc-parler. Hein.
C'est un vrai titi parisien.
Enfin, c'est le titi parisien.
Extraordinaire.
J'ai pratiquement toujours connu avec une paire de chaussures, une paire de mocassins italiens.
Pierre Leclerc, commerçant de la rue de Verneuil et ami de Serge Gainsbourg.
Blanche avec des tout petits lacets fins. Pieds nus dedans, toujours.
Et Gainsbourg, dans certaines... on en parlait avec Pierrot. Dans certaines de ses chansons, Gainsbourg avait repris des thèmes que Pierrot de Pierrot sur la vie du quartier et sur les femmes.
Est-ce qu'il a déjà travaillé, écrit ici ?
Non, je ne l'ai jamais vu écrire. Il venait, il sortait, il se baladait. Et on l'entendait commencer à fredonner, puis après il rentrait.
Et un jour, il marchait dans le caniveau, la ville avait lâché la flotte.
Et on l'entendait commencer à fredonner, puis après il rentrait. J'essayais de percevoir. Non, il devait préparer ça dans sa tête.
Et puis alors, il marchait dans le caniveau, en pataugeant dans la flotte, et en faisant éclabousser la flotte.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc. Dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou.
Puis je le vois, mais je dis, Serge, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, il dit, tu me prends, hein, si tu es le petit gars sur le trottoir, j'ai le vertige.
Moi, j'étais convoquée chez lui.
Françoise Hardy.
Donc le disque évidemment n'était pas sorti, donc c'était un moment privilégié qui vous donne la primeur de ces enregistrements. Mais il les mettait tellement fort, et Dieu sait si moi je fais partie des gens qui aiment écouter les disques forts. Mais alors là, chez lui, ça dépassait les bornes, quoi. Ce qui faisait que c'était pénible au bout d'un moment. Et surtout qu'on ne comprenait pas un mot. Parce que plus on écoute fort, plus la voix disparaît. Et enfin, se fond au reste. Et moins on perçoit ce qui est dit. Et donc, je ne comprenais pas un mot des textes. Je ne savais que lui dire.
Il ne restera de nos nuits.
G-A-I-N-S-B-O-U-T.
prend la fuite. Elles en pincent toutes pour ma pomme cuite. Je suis un crack pour ces petites. Crac, les v'las sur le dos. Et moi, chut, j'en profite. Leur petit cœur palpite tandis qu'elles s'excitent. Elles s'envoient au zénith. Elles sont gonflées, ouais, mais très vite. Elles craquent, et alors, chut, craquent ses lunettes. Et puis, chut, et comme une fuite. Et l'histoire sensuelle et sans suite, ça fait craquer. Et puis, pst, j'prends la fuite. J'aime jouer avec la dynamite. Quand ça craque, ça fait pst, crac, j'allume la mèche. Et puis, pst, je m'excite. Leur petit cœur palpite tandis qu'elle s'excite. S'envoie au zénith. Ces histoires sensuelles et sans suite, ça fait crac, ça fait whist. Crac, je prends la fille, et puis whist, je prends la fille.
Qui nous unit, Serge et moi. Cette histoire me fait pénétrer au cœur de son personnage. Vu de l'extérieur, on pourrait apercevoir un sinistre individu, sale, cynique, pervers et violent. Mais vu de l'intérieur, vous croiserez le regard d'un enfant.
Promenons-nous dans le mois, pendant que le vous n'y est pas. Car si le vous y était, sûrement il nous mangerait.
Serge Gainsbourg, je suis content au fond que vous ayez choisi pour nous accueillir ces quelques mesures de ce grand méchant vous. Parce que si le public vous aime bien, vous n'avez pas une excellente réputation. On dit, oh comme ce garçon est triste, oh comme il a l'air méchant. Quand on le voit à la télévision, jamais un sourire, jamais rien.
Mettons-nous dans le moi.
Méchant, méchant, méchant.
Le faux méchant.
Moi j'ai su ça.
Jambi.
Il était un fou méchant. C'est pour ça que c'était délicieux, parce que les gens disaient, oh, qu'est-ce qu'il est cruel, ça doit être terrible, mais c'est sadique. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il se trompe? Qu'est-ce qu'il est adorable? Qu'est-ce qu'il est vraiment un amour, un vrai amour? Et je crois que les enfants ont connu un père qui, quand même, c'est rare d'avoir des papas qui, dans les chambres, dans les hôtels chics, sautent sur toutes les chaussures qui sont mises à la sortie des portes pour être nettoyées le matin après. Ils sautaient à pieds joints sur toutes les chaussures. Ils faisaient des lapins avec les chaussettes, parce que si on les roule en boule, ça fait deux petites oreilles. Et puis ça, c'était sûr. Mon oreiller pour dire bonsoir. Enfin...
Vraiment, il était heureux quand il était avec Lulu ou avec Charlotte, je pense. Mais avec Lulu, parce que Lulu, c'était un bébé, il se voyait lui petit, quoi. C'était un papa génial.
Qui ferait des lapins avec des chaussettes? Je ne sais pas. C'est pas une chose qu'on imagine d'un grand poète.
C'est une petite poupée qui fait pipi caca. Et une petite poupée qui dit papa.
casquette blanche
et une culotte à trou-trou. Quand elle remue du croupion comme en cocoon. Mais je fais gaffe avec mes hanches de pas trop la bousculer, car j'ai bien peur de déchirer ma poupée.
C'est vrai que quand Lulu est née, ça a rééquilibré certaines. Enfin, ça.
Bambou.
La douleur que Jen avait. Enfin, était un peu partie, quoi. Enfin. C'est vrai que quand Lulu est née, Serge était vraiment heureux à ce moment-là. Et je pense que je ne pouvais pas lui faire un plus beau cadeau avant qu'il parte, quoi.
Est-ce que vous êtes un bon père de famille ?
Jacques Chancel.
Radioscopie.
Oui. Très bon. Je suis un rigolo.
Un copain ?
Elle m'adore. Elle m'adore parce que je fais le clown, je fais des grimaces. Je suis le clown.
G-A-I-N-S-P-O-U-R-G. Serge, on vous sent assez rarement moraliste, mais dans la chanson « La chance aux enfants » ou « Les enfants de la chance »
articulation vieux, oui.
Oui. Oui, j'ai pas de mémoire, c'est pas ça, le problème d'articulation.
Ça, on regarde, hein. Bon.
Alors là, vous êtes moralisateur, puis en même temps, il y a des chœurs qui font shit, shoot, de manière très...
Shoot, shit.
Ouais, ou shoot, shit.
Lui aussi, il se plante. Merde. Chier. Écoutez mieux que ça.
Serge Gainsbourg, par Mélodie Nelson.
Chut. Aux enfants de la chance, qui n'ont jamais connu les trans.
Voulez-vous appeler le témoin à décharge ?
Monsieur Serge Gainsbourg.
Tribunal des flagrants délits.
France Inter.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Dans l'ordre ?
C'est un tribunal d'ordre.
Est-ce qu'il y a quelque chose à boire, là ?
De l'eau.
Alors, non, Gainsbourg, Serge, âge 53 balais bientôt. qualité, mais plutôt défaut, grand éthylique.
Je crois qu'il buvait parce qu'il n'était pas heureux. Il ne m'a jamais donné l'impression d'être heureux. Si peut-être...
Catherine Sauvage.
Au début où il était avec Birkin, il donnait une impression comme ça d'être plus ouvert, plus... Mais je pense que si c'est tellement démoli, c'était une forme suicidaire quand même.
Un coup de petit verre d'eau de goût et la plus belle cuite de ma vie sera autour des funérailles et canailles.
Je pense pas que c'est un homme qui a été heureux dans sa vie.
Tu n'es qu'un fumeur de litane. Je vois tes volutes bleues. Parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Je suis malheureuse pour les cigarettes, oui, effectivement. Si j'aurais pu changer ça, j'aurais bien aimé. Mais après son crise cardiaque, je pensais que c'était arrêté quand même. J'en étais persuadée. Et tout d'un coup, j'ai remarqué quand même qu'il prenait des promenades pas mal avec son chien dans le Rue de Verneuil. Qui partait comme ça tout le temps. Je pensais, disons, c'est bien pour le chien, mais je savais pas que ça allait jamais marcher. Et après 4 mois, qui me montrait à quel point on peut être dupe, même quand vous vivez avec quelqu'un, ça fait un peu peur aussi. Il est rentré, j'ai vu une bouffée de fumée qui sortait d'une de ses petites allées, et tout d'un coup, j'avais compris. Quand j'avais dit avant, mais vous avez de la tabac sur les dents, il dit, non, non, c'est du poivre. Et j'avais cru. Et là, j'avais compris qu'il fumait en cachette. Alors, je l'avais giflé, après j'ai couru en haut, m'enfermé, j'ai téléphoné à papa, j'ai dit « qu'est-ce que je peux faire maintenant pour l'aider ?» Il a dit « tu viens de faire une grosse erreur, il aurait continué à fumer en cachette, le chien aurait se promené, Serge aurait fumé beaucoup moins, et maintenant tout est ouvert et il va fumer comme avant. » Et c'est effectivement, le chien fait pipi sur le balcon et Serge fume comme un pompier.
Serge Gainsbourg.
Vous êtes un désespéré.
Oh, je suis pas. Je suis lucide, on peut pas être très heureux quand on est extrêmement lucide. Est-ce qu'il y a quelque chose à boire?
De l'eau.
Pardon.
C'est rigolo, bon, c'est vrai que Serge buvait beaucoup, donc il arrivait au studio le matin, on faisait des séances genre 10h, 20h.
Dominique Blanc-Francard, ingénieur du son.
Il était déjà fortement imbibé en arrivant le matin et encore plus en repartant le soir. Mais j'ai vu pas mal de cycles, quand j'ai commencé à bosser avec lui, il était au Champagne Rosé. Après, dans la période Adjani, il est passé subitement du Champagne Rosé au cocktail. Alors il a emmené un shaker dans sa... mallette, il faisait des shakers sur place, des bourbons Sawyer, un dégommé, un bœuf, il en buvait 3 dans la journée. Un dé à coude déjà suffirait à retourner le cerveau d'un être humain normal. Lui, il descendait 2 grands verres à bière. Puis après, il est passé au pastis 51, qu'il appelait 102, là, c'est qu'il avait un verre dans chaque main, donc ça faisait en stéréo. Puis voilà, mais sinon, ça l'empêchait pas de travailler. Avec nous, il était charmant, mais il était terriblement dirigiste.
C'était un très 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 bon client de pourboire, parce qu'il n'était pas radin du tout. Pour une consommation de 50 balles, il était capable de laisser un billet de 200 balles. Tu penses que c'est intéressant pour les gamines.
Pierre Leclerc, commerçant de la rue de Verneuil et ami de Serge Gainsbourg.
Il disait toujours « personnel ». Avec beaucoup de gentillesse et puis de sincérité, il laissait son pourboire large. Quoi. Et puis alors, un beau jour, il s'est fait opérer du foie et j'avais été lui rendre visite à l'hôpital. Et j'attendais dans le couloir parce que la chambre était occupée et puis je patiente un petit quart d'heure et puis il y a le chirurgien qui l'avait opéré qui sort de sa chambre et puis j'étais là. Dans le couloir, il dit « Qui êtes-vous ?» Ben, je dis « un copain de... » la personne que vous venez de rendre visite. Et puis alors, eh ben, il dit, c'est votre pote. Eh ben, il dit, celui-là, il m'en a sorti une bonne à son réveil, parce que lorsque j'ai été le voir dans sa chambre, j'ai été obligé de lui dire quand même, monsieur Gainsbourg, à propos de votre foi et de son ablation, j'ai été obligé de vous en enlever un bon petit morceau quand même, avec le geste de l'index et du majeur, comme une paire de ciseaux, oui, tout à fait. Oui. Et puis, alors, vous savez ce qu'il m'a répondu? Ben, je dis, je m'attends au pire. Personnel.
1974.
Vous
venez d'être
très malade, là, il n'y a pas très longtemps. Vous avez fait une crise cardiaque. Vous avez 46 ans, c'est très jeune, non?
Québec, Montréal.
Faut avoir vécu terriblement.
J'ai vécu assez vite.
Est-ce que vous avez eu peur?
Non.
Parce qu'on en meurt parfois, je ne sais pas si vous savez.
Oui, il ne faudrait pas fumer.
Oui, je vous vois enchaîner les cigarettes les unes sur les
autres. Oh, parce que dès qu'il y a des spots, un peu de lumière.
Autrement, vous êtes plus sage.
J'essaie de restreindre, mais je suis un faible, sans caractère.
Vous avez pensé à quoi quand vous avez fait cette crise cardiaque? Que c'était 46 ans bien remplis? Ou qu'il manquait encore quelque
non.
chose?
Comme André Chénier, il manquait surtout pas comme couplet. J'ai beaucoup de choses à faire.
Serge Gainsbourg.
Monsieur William, chanson rare.
C'était vraiment un employé modèle. Monsieur William, toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui, au hasard, et voilà.
Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue?
Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir.
Monsieur William,
il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir à marcher dans le sang. Dans la nuit a disparu, c'était peut-être le destin qui marchait dans les rues.
Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue.
C'est bien connu, un homme qui vous fait rigoler est à deux doigts de vous faire craquer. Et face à l'humour dévastateur de Serge, elles tombent toutes comme des mouches.
France Inter.
Serge Gainsbourg.
Par Melody Nelson.
Tu t'appelles comment?
Melody.
Melody comment?
Melody Nelson.
Serge.
Il me parle souvent de sa maman. Caustique, sarcastique et malicieuse.
Serge.
N'allons pas chercher plus loin, c'est une question d'héritage. Tout petit déjà, il fait hurler de rire ses deux sœurs en imitant la fanfare. Quand il se retrouve moniteur dans un établissement pour réfugiés israélites, il fait des tours de magie aux enfants. Avec Kate, Charlotte et Lulu, il endosse le rôle du clown et au bistrot du coin, fait la chasse aux histoires drôles.
Serge Gainsbourg.
Le faux méchant.
Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, vous levez la main droite et vous dites je le jure.
Merde alors.
Quand on est sorti du restaurant,
Busy.
Il a eu une petite crise, un petit délire quoi. Il s'est allongé par terre sur la route en disant oh ben moi de toute façon c'est pas grave, vous allez voir, on va me reconnaître, je peux pas me faire écraser. Et c'était quand même en pleine nuit dans un endroit assez très éclairé, etc. Je lui dis mais tu te rends pas compte là ils vont pas voir que c'est Gainsbourg, il faut que tu te relèves tout de suite. Et donc il était allongé sur la route et moi je flippais, je lui disais Serge écoute je t'en supplie lève-toi s'il y a une voiture. Et au bout d'un certain temps, il s'est levé, mais il avait des délires, mais grave. Moi, j'ai rigolé, mais c'est... il avait des gags, j'ai rigolé, mais sans arrêt pendant 6 mois, quoi.
J'écris The Underest.
Donc c'était court.
C'est 3h45. On voit le niveau dans le verre du champagne qui en diagonale. Bon, bah, je suis toujours. Il y a toujours un commandant de bord qui dit: Monsieur Gainsbourg est invité à la cabine de pilotage. Alors je viens. Et puis ils sont pétés comme des coins.
Alors là, vous êtes menteur.
Pas sur le Concorde, mais sur les 747. Ah si, quand il y a une escale à Ouagadougou. Oui. Là, ils se tringlent les hôtesses et ils passent la nuit. Et ensuite, ils remettent leur tenue de...
strict.
Ouais. Réglementaire. Affirmatif.
Les poubelles, c'était des poubelles qui étaient sur le trottoir et c'était des poubelles en ferraille. Ils montaient sur le petit marchepied de la poubelle là, et ils suivaient les mecs de la ville de Paris et puis donnaient un coup de main à ramasser les poubelles et puis ils ramassaient la sienne, la déversaient dans... C'était pas à l'époque où les poubelles étaient automatiques comme maintenant, tu sais, ils mettent les poubelles, elles se déversent automatiquement. Là, il fallait les verser soi-même, les déverser donc. Puis alors, mais ça y allait. Et puis alors, quand moi je l'ai vu 2 fois, mais notamment une fois où c'était à mourir de rire. Il était avec les gars et puis il les menait. Hein, les petits gars, allez plus vite que ça, hein, manions-nous là, hein, et parce qu'on n'avait pas que ça à faire. Et puis, mais, puis, c'est les, puis les gars, ils marchaient à la baguette, hein, les gars de la ville de Paris. Hein, et c'est lui qui menait la danse au cul de la poubelle. Hein, et puis ça y allait, et puis il y allait le premier, lui, puis ça ronflait, hein, derrière la poubelle. Et puis avance-toi là, au chauffeur, là, on n'a pas que ça à faire, on va être en retard. Et puis, alors, mais tu sais pourquoi il maniait les mecs? Parce qu'il y avait le bistrot au bout de la rue qui fermait à 9h. Et il était à peu près 9h-10, il voulait arriver au bistrot avant qu'il ferme, tu vois. Mais pas lui pour boire, uniquement dans le but de payer un coup au mec, et puis c'est tout. Mais il n'empêche que sur 200-300 mètres, il leur donnait un coup de main.
G-A-I-N-S-B-O-U-R-G.
Quelle image de Gainsbourg ont les gens, à votre avis? En dehors de celle que vous donnez beaucoup de mal à donner.
S'ils ne me connaissent pas, je ne suis vraiment pas un marrant. Mais ceux qui ont un contact avec moi savent que je suis un rigolo.
Et le côté provocateur que vous avez longuement peaufiné, ça vous sert à quoi?
Ça me sert à me réveiller tous les matins, mais je suis un lymphatique. Alors, si je me secoue un peu, qu'est-ce qui va rester? Je suis lymphatique, rêveur. Ah, il faut que je me secoue par des propos sophistiqués, dans la négation, dans la dérision et dans la provocation.
Une fois, quand il était dans ma maison à Chelsea, avec mes parents, mon frère, ma sœur, enfin toute ma famille, il y avait une clochard qui était arrivée à la porte. Et c'est une tradition anglaise que tu refuses personne le jour de Noël. Le jour après, sans hésitation, mais le jour de Noël, non. Alors il est rentré. Irlandais, il était. Et là, Serge, toujours aussi généreux, avec du vin Rothschild, avec des... enfin, somptueux. Il avait embarqué le dinde truffé de truffes, etc. Bon, donc cet homme a resté avec nous toute la journée. Et en partant, il a embrassé Serge et il disait « Now I believe in God. Maintenant, je crois en Dieu. » Et Serge disait de penser que moi, juif, suis ici, français. Et c'était un charme neigé, justement, à ce moment-là, en face de l'église catholique, où il y avait tout d'un coup les clochers de Noël. Ça me semblait alors inouï de romantisme, de charme. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père
Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Et vous venez de...
Je viens de Russie, par mes parents.
Et vous venez de faire, enfin, d'écrire certaines chansons du nouveau disque de Jacques Dutronc.
Exact, par exemple, l'hymne à l'amour moelleux, c'est pas mal. Oui, ça fait du bruit. Ça va faire un Michel Drouin.
Bougnoul, Niakwe, Raton, Youpin. Kouya, Gringo, Rasta, Rikin. Polak, Hugo, Shinton, Pékin. Moi le nœud. Niakwe, négro, blanc, blanc, bouquin. Métèque, moko, ordure, putain. Rital, macro, macaque, chien. Moi le nœud. Ce qu'il en reste.
À peine on sort de l'émission, il me dit « qu'est-ce que vous faites ?» et tout ça. Je lui dis « il faut que je rentre ». Il me dit « vous avez le temps quand même de prendre un verre au Plaza ». Et c'était à une époque où normalement, il y a tout le temps eu des époques où il ne fallait pas qu'il boive. Alors, je l'accompagne par correction au bar du Plaza. Il commande d'emblée deux cocktails.
Françoise Hardy.
Et puis, au bout de très peu de temps, il me balance des choses, mais complètement destructrices, sur ma vie privée, où moi, j'étais mais alors littéralement bouleversée. Mon univers s'écroulait à cause de tout ce qu'il me balançait d'horrible. Bon, et puis, je voyais leur passer tout ça, finalement je réussis à le sortir du bar du Plaza et dans la voiture il me dit je suis très 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 mal, est-ce que je peux rester avec vous parce que ça va pas du tout, c'est dans le genre si je rentre chez moi, je suis seule et tout ça, je me flingue quoi. Et donc on se l'est... alors je débarque à la maison avec lui, alors Jacques fait oulala. Alors on dit on va dîner à l'hôtel à côté, et puis il y avait Thomas qui était petit, il a toujours été très copain avec mon fils. Et il a fait traîner ça en longueur, donc ça a duré beaucoup plus de temps que je ne souhaitais. Finalement, le dîner se termine et dans la voiture il dit « est-ce que je peux dormir chez vous ?» Alors moi, me disant « il va se suicider si on n'accepte pas », bon, je dis « oui, il n'y a pas de problème, simplement, bon ». Alors, avant de garer la voiture, Jacques me dépose devant la maison pour que je prépare vite une chambre et tout. Et puis, pendant que j'étais en train de préparer cette chambre, un des copains de Jacques sonne et me dit « ne t'inquiète pas, Serge ne peut pas dormir sans somnifères, nous allons au drugstore lui acheter les somnifères ». À 5h du matin, il n'y avait toujours personne. Et c'est Jacques qui l'a quitté à 5h du matin, lui continuait à faire la fête, je sais pas, ils ont été dans des boîtes, je ne sais où. Et à 9h du matin, il devait faire une publicité.
La tête que j'ai aujourd'hui, je la regretterai dans 10 ans. Alors, pour me tirer le portrait, j'ai choisi la pellicule couleur Konica. Konica, pour garder une bonne image.
Gainsbourg, le faux méchant.
On a demandé à Serge qu'est-ce que c'était l'éternité, il a dit mais les enfants. C'est pour ça que quelqu'un qui était tellement bluffeur comme ça, où on pourrait imaginer prétentieux, n'était pas du tout son propre... Il savait qu'il avait du talent, oui ça, qu'il avait énormément de talent. Quand Brassens est mort, il a dit il ne reste que moi. Donc ça pouvait avoir l'air d'être très prétentieux tout de même.
Il faut avoir un peu de prétention. À autre.
Mais c'était très très exact. Et voilà, sur la mort, c'était les enfants.
Bambou. Lulu un jour m'a dit, maman, mais si t'es une erreur de la nature, moi je suis la deuxième. Et il y a eu un moment de doute dans sa tête. Et je lui ai dit, écoute Lulu, si t'as vraiment un doute et tu penses ça, le pense pas parce que ton papa serait pas content. que tu penses à... Et je lui ai dit, j'ai gardé tous les papiers où il parle de toi. Donc, si un jour tu veux ouvrir ce gros sac, j'ai gardé ça en pensant à l'époque, pourquoi j'avais pensé à ça. Si un jour tu avais un doute, pense que ton papa t'aimait comme il aimait Charlotte. Et je veux pas que tu aies ce doute-là. Mais c'est vrai que Lulu, en tant qu'enfant, réagit en tant qu'enfant aussi. Et il s'est dit, merde... Si ma mère est une erreur, qu'est-ce qu'on fout là? Ça s'arrête à Charlotte, quoi. Il me l'a dit. Mon père, quand je vois les bouquins, je dis, parce que tu les lis la nuit? Il me dit, ah ben oui, parfois je me lève. J'ai dit, mais crois pas ce qu'il y a dans les livres. Il m'a dit, mais regarde, il y a trois lignes sur toi, t'es toujours traité de junkie. Et quand t'es pas junkie, c'est moi qui arrive. Mais c'est trois lignes et c'est tellement bref. C'est comme si on n'existait pas, quoi.
Lulu, viens voir papa, viens voir papa, viens voir papa, viens voir papa, Lulu, viens voir Lulu. Et voilà Lulu, papa, papa, allez, tape les pieds. C'est mignon, mon petit Lulu. Bon, je te dis, il est 10 000 oiseaux. Ça fait 10 000 coco, hein. Ouais. Allez. Allez, c'est fort.
Quand je serai refroidi, je laisserai mon petit Lully des nèvres et mes abattus.
C'est vrai que j'ai vu Lulu l'autre jour, mais c'est une merveille, de toute beauté vraiment. Et jouant au piano comme ça, je me suis dit, mais oui, tout ça continue, c'est marrant. Ça, c'est vraiment charmant. Elle a très, très bien fait, Bambou. C'était pas la tarte, vraiment, d'élever un enfant seul. D'être parfois la personne pas reconnue. Ça doit être gênant aussi. Et elle a fait ça, mais impeccablement. Parce que les enfants veulent jamais se faire chier au piano. Ils veulent toujours larguer les leçons de piano, le violon, tout ça. C'est très ennuyeux. Et elle a resté têtuement avec ça. Et il est brillant. Il est encore mieux quand les gens le regardent en plus. C'est drôle. Toute anxiété part. Ça, c'est vraiment... Ça va être quelqu'un.
Serge.
Et Charlotte.
J'aime pas les turbulences. Sois plus doux avec moi.
Je fais ce que je veux et ce que je peux. Voilà.
C'est en toute innocence que je te dis ça, papa.
Je sais... Aucun mensonge.
Serge Gainsbourg par Mélodie Nelson.
Ouais.
France Inter.
Charlotte voit le jour à Londres le 21 juillet 71.
1971.
Quelques mois après la parution de cet album qui porte mon nom.
Serge Gainsbourg par Mélodie Nelson.
Serge avoue flirter pour la première fois avec le véritable bonheur. Un bonheur renouvelé le 5 janvier 86 par la naissance de Lulu. Pourtant, la paternité, il l'a déjà connue, ou plutôt côtoyée dans les années 60. Gainsbourg ne parle jamais en public de Paul et Natacha, ses deux premiers enfants nés d'un mariage avec Béatrice. La preuve, écoutez-le.
Totalement inédit.
Totalement inédit.
1972.
C'est bien que mon âge, il ne faudrait pas dire ça parce que c'est à cet âge-là que ça se dit, mais je dis quand même, je ne comprends pas la jeunesse. Il y a toujours un âge, vers 40-50 ans. 40-50 ans où on décroche avec la jeunesse. Si j'avais eu un enfant d'un de mes premiers mariages, elle aurait actuellement, je dis elle, elle aurait 20, l'âge de Jane en fait, 25 ans. Et je ne serais pas d'accord du tout avec moi. On aurait de grands problèmes. Je dirais ces lieux communs que les pères disent toujours aux enfants. Moi, j'ai chahuté dans ma jeunesse, mais à ce point-là...
Serge
Gainsbourg, le faux méchant.
C'était le chef de famille, c'était le chef de clan.
Marc Menot, restaurateur.
Il est très entouré, il est très écouté, que ce soit de ses premières filles ou de Lulu, c'est le père. Et c'est vers lui que la famille se tourne pour cadrer sa forme de vie, pour cadrer sa forme de réflexion. Et la famille était très présente auprès de lui, chaque jour, au téléphone. Les filles téléphonaient, ses copains téléphonaient. Il est très entouré.
Merde, tu viens faire chier encore.
Ouais.
Déteste les faux gentils, préférez de passer pour un méchant. J'ai vu une très jolie interview avec Denise Glaser. Peut-être qu'il avait 30 ans, je ne sais pas, il était très très jeune en tout cas. Moi qui a beaucoup de difficultés de le regarder sur la télévision, tel que moi j'ai connu, enfin, dans mon période, si j'ose dire. Mmh. C'est vrai que quand je l'ai découvert avant, j'étais subjuguée. Et Denise Glaser lui disait...
Vous avez envie de dire des choses dans un livre, je voudrais savoir quoi.
Des choses sur les femmes.
Ah, mais encore.
Expérience personnelle. Déception personnelle, et puis... idéal personnel.
Si vous me parlez d'idéal personnel, c'est donc que vous n'êtes pas tout à fait aussi misogyne que vous l'étiez il y a quelques années.
J'ai jamais été misogyne, j'étais pudique, c'est tout.
Pas très tendre.
Oui, pas très tendre. Si vous voulez quand même, avec ma gueule, soit tendre, on dira, mais c'est que ce mec, là, il vient... Je peux pas être tendre, je suis dur. J'ai une gueule dure, je ne peux pas être tendre. Je suis tendre en privé, pas devant les gens.
Mais est-ce que vous savez que... Avec votre visage, comme vous dites, vous avez beaucoup d'admiratrices.
Oui, mais ça je le sais, mais elles sont pas idiotes. Enfin, je veux dire qu'elles sont pas...
Elles sont pas idiotes, c'est-à-dire ?
Elles savent très bien que derrière mes chansons, il y a moi.
Il était absolument ravissant parce qu'il était tellement timide. Mais en même temps, se prenant pas pour rien non plus. Ce qui était aussi très intègre et bien. Il savait qu'il était un très bon écrivain. Donc il était mesuré et timide. Très articulé, c'est en noir et blanc mais rougissant, on imagine. Au même temps, avec une sorte de sourire narquois, parce que quand même les filles tombaient comme des mouches malgré tout. Et un si joli sourire. Et je me suis dit, mais c'est Charlotte, comme c'est drôle. Charlotte qui est tellement timide envers les médias et tout ça. Bah, j'étais pareil au début finalement. Et puis il a joué de ça, il a joué d'un côté dandy, d'un côté cruel, de quitter les filles. Je crois qu'il a été très très malheureux avec son propre visage quand il était jeune. Il allait voir des putes et puis il disait, oh, revenez en quelques années. Il avait déjà 20 ans. Alors il faisait toujours beaucoup plus jeune qu'il était. Et puis je pense que quand il était jeune, on l'envoyait sur les roses beaucoup. Alors que dès qu'il commençait à écrire des chansons, tous les filles tombaient parce qu'il voulait des belles chansons de lui. Je crois que tu peux garder un cœur tendre, mais d'être assez conscient que c'est votre talent qu'ils aiment. et je crois qu'il ne supportait pas son visage. Peut-être donc ça lui plaisait bien de faire semblant d'être quelqu'un qui mordait, alors que finalement...
Gainsbourg, le faux méchant.
Ce n'était pas du tout le cas.
Tu as le ticket chic, moi j'ai le ticket chic.
Gainsbourg dixit. L'homme a créé des dieux, l'inverse reste à prouver. Pour croire aux enfers, il faudrait peut-être d'abord croire en Dieu. Non, j'aimais toujours au pluriel, parce que si jamais il y a plusieurs, on va se fâcher.
G-A-I-N-S-P-O-U-R-J. La CRPLF, Communauté des radios publiques de langue française, est la première.
Pardon ?
La première, vous en présenter. Serge Gainsbourg, par Mélodie Nelson.
Une émission de Jean-Luc Lehmann,
Stéphane Deschamps
et Thierry Châtel.
Avec la participation de
Valérie Paco, Mathilde Malen,
Bertrand Delacoste.
Mélodie Nelson est interprétée
par Marion Losset.
Remerciements à Janine Marc Peset,
René Mikils,
Pierre Lacouture.
Merci également à Philippe Rohrbasser pour ses archives personnelles.